journal d'Haïti et les Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 9h10 à Port-au-Prince. Il dénonce des expulsions inhumaines. Daniel Foote, émissaire des États-Unis pour Haïti, démissionne avec une lettre au ton inhabituel pour un diplomate. On y revient dans un instant. Conséquence, bien sûr, des expulsions de ces milliers d'Haïtiens qui se sont massés au Texas. On consacre à nouveau une grande partie de notre rendez-vous à ce dossier. On sera à Port-au-Prince aussi, où nous attend Franz Duval. Du Nouvelliste, on ira également aujourd'hui au Chili, où la campagne pour la présidentielle de novembre a été lancée hier avec un débat télé. Et puis, dans une quinzaine de minutes, le journal de la première, c'est Serge Masson, on sera en Guyane où une quatrième vague de Covid déferle.
Oui, 55 morts durant ces 40 derniers jours en Guyane. À Saint-Laurent-du-Maroni, l'hôpital s'est même décidé à trier ses patients.
On en parle tout à l'heure, Serge, dans une quinzaine de minutes. Bienvenue à tous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Il jette l'éponge. Daniel Foote, l'envoyé spécial des États-Unis pour Haïti, donc démissionne. Évidemment, c'est lié à cette gestion par l'administration Biden de la crise migratoire impliquant des milliers d'Haïtiens à la frontière américano-mexicaine. Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
Daniel Foote a adressé une lettre au secrétariat d'État américain.
Et c'est une lettre de démission cinglante que Daniel Foote a fait parvenir à Anthony Blinken, une bombe même. L'envoyé spécial en Haïti, qui n'était en poste que depuis 2 mois, depuis la mort du président haïtien Jovenel Moïse, accuse le chef de la diplomatie américaine d'avoir ignoré ses recommandations. « Je ne serai pas associé, écrit-il, à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés et d'immigrants clandestins vers Haïti. » Un pays, ajoute-t-il, où les officiels américains sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger posé par les gangs armés. Selon Daniel Foote, Haïti n'est pas en mesure d'absorber cette arrivée forcée de milliers de migrants qui manquent de nourriture, d'un abri, d'argent. Plus inédit encore, dans cette même lettre, il condamne l'ingérence des États-Unis dans la politique haïtienne et notamment son soutien renouvelé au Premier ministre haïtien Ariel Henry, qui actuellement tient les rênes du pays. L'arrogance, écrit-il, qui nous fait croire que nous devrions désigner le vainqueur, est impressionnante. Une intervention politique internationale qui a systématiquement, selon lui, produit des résultats catastrophiques en Haïti. C'est de mémoire, Michael, la première fois qu'un haut fonctionnaire américain tient de tels propos sur le dossier haïtien.
Merci Marie, bonjour à vous, Stéphanie Schuller.
Bonjour Michael.
Cette lettre qui est très largement commentée sur les réseaux sociaux, lettre de démission qui est confirmée par le département d'État.
Oui, l'ambassadeur Daniel Foote a remis sa démission en tant qu'envoyé spécial en Haïti. Nous le remercions pour le service qu'il a rendu à son pays et au peuple haïtien, a déclaré simplement le département d'État, cité par le Miami Herald. Le journal de Floride rappelle que depuis la nomination de Daniel Foote, les conditions en Haïti n'ont fait qu'empirer, ce que Foote avait d'ailleurs reconnu lui-même, déclarant le mois dernier à un panel de la Florida International University que sa condition pour accepter le poste d'envoyé spécial était que les États-Unis ne répéteraient pas les mêmes erreurs en Haïti.
Et en tout cas, Stéphanie, ces mots très durs que nous dépeignait Marie tout à l'heure, ces mots très durs de Daniel Foote, ils font aussi d'une certaine manière aussi écho à ceux de la diaspora haïtienne, vous qui avez lu la presse, Stéphanie.
Oui, avec notamment les manifestations qui se sont tenues hier dans plusieurs villes des États-Unis, notamment en Floride, où vit, comme vous le savez, une importante communauté de la diaspora haïtienne. Laissez-les rentrer, scandaient les manifestants à Miami dans cette vidéo publiée par le Miami Herald.
Nous sommes ici pour lutter contre l'expulsion d'Haïtiens qui demandent l'asile. C'est ce qu'avait promis l'administration Biden. Mais le président ne tient pas parole. Arrêtez les expulsions. Et vous, Kamala Harris, arrêtez l'expulsion des Haïtiens.
Et voilà Stéphanie, cette colère contre l'administration Biden, elle est grande.
Oui, tellement grande même, Michael, que certains citoyens ont fait irruption dans les bureaux de différents comtés pour annuler leur affiliation au Parti démocrate et s'inscrire en tant qu'électeurs indépendants, rapporte de son côté le Washington Post. Le quotidien souligne que la polémique déclenchée par le traitement brutal des migrants haïtiens par les gardes frontières à cheval prend une tournure inquiétante pour la Maison-Blanche, parce qu'il n'est désormais plus seulement question de la politique migratoire, noirs de Joe Biden, mais également de racisme. Les migrants noirs sont criminalisés de manière disproportionnée, tout comme les Afro-Américains en raison de leur couleur de leur peau, explique une militante dans les colonnes du Washington Post. À Miami et ailleurs, les manifestants tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Mettre fin au racisme à la frontière » ou encore « Traiter tout le monde de la même manière ». Signe que la question raciale dans ce contexte de crise migratoire est prise très au sérieux par l'administration Biden. Trois responsables de la Maison-Blanche, tous noirs, ont rencontré hier des membres du Black Caucus, le groupe des élus afro-américains du Congrès, rapporte encore le quotidien.
Cette administration Biden, Stéphanie, qui finalement souffle le chaud et le froid sur ce dossier.
Ouais, des centaines d'Haïtiens sont renvoyés chaque jour chez eux par l'administration américaine, ce qui amène l'éditorialiste du New York Times d'accuser le président de, je cite, « faire du Trump ». D'autres migrants haïtiens ont en revanche été relâchés aux États-Unis avec pour seul ordre de comparaître dans les 60 jours devant les autorités d'immigration. Mais combien sont-ils ? Un peu plus de 1000, croit savoir la chaîne CBS qui publie cette déclaration du secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, Alejandro Mayorkas.
Bon nombre des personnes que nous rencontrons demandent l'asile et ils ont le droit de faire entendre leur demande d'asile.
Et dans ce contexte déjà plus que flou, une autre nouvelle jette le trouble, Stéphanie.
Oui, et elle a d'abord été révélée par la chaîne américaine NBC News. L'administration Biden recherche un entrepreneur privé pour ouvrir un centre de détention pour migrants sur la base américaine de Guantanamo. Capacité d'accueil, 400 personnes maximum. Selon les détails apportés par le quotidien The Hill, le département de la sécurité intérieure cherche 50 employés pour travailler dans ce centre de détention pour migrants. Au moins 5 de ces salariés doivent savoir parler couramment le créole haïtien.
Est-ce que ça veut dire que certains Haïtiens actuellement coincés à la frontière vont se retrouver à Guantanamo ?
Non, dit le département de la sécurité intérieure qui affirme dans The Hill que son appel d'offres concerne tout simplement un renouvellement de contrat.
Stéphanie Schuller, merci beaucoup. Je vous propose à présent, maintenant qu'on a vu le côté américain, qu'on aille à Port-au-Prince voir les réactions que tout cela suscite. On est en ligne avec Franz Duval, le rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour.
Bonjour, Michael.
Vous avez hier, Franz, signé un éditorial dans lequel vous reprochiez aux autorités haïtiennes de ne pas venir en aide à ces migrants haïtiens. Est-ce que c'est cela qui a poussé le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, à vous accorder ensuite une interview exclusive ?
Bon, j'ignore si c'est cela a motivé le chancelier haïtien à sortir de son silence pour s'adresser au Nouvelliste, mais effectivement, les autorités haïtiennes, que ce soit la diplomatie ou le gouvernement lui-même au plus haut niveau, ne se sont pas vraiment prononcés sur la crise migratoire qui existe aujourd'hui au Texas. Ils ont tout simplement dit qu'ils allaient accueillir les Haïtiens qui allaient être refoulés vers Haïti. Et si on a dépêché à Del Rio des consuls haïtiens pour aller rencontrer d'abord les autorités américaines, il n'y a toujours pas vraiment de prise en charge, de contact avec ceux qui sont dans la situation la plus difficile sur la frontière américaine.
Pas de mesures concrètes donc. Comment est-ce qu'on interprète cela en Haïti ?
Alors, il faut dire que les autorités haïtiennes marchent sur des œufs. Nous sommes aux États-Unis, on parle d'Haïti. Haïti ne s'est jamais vraiment opposé aux décisions américaines en ce qui concerne les réfugiés haïtiens aux États-Unis. C'est un sujet que le gouvernement haïtien évite depuis des années, des décennies. Et du côté mexicain et du côté américain, il n'y a pas vraiment une assistance, il n'y a pas vraiment une implication, il n'y a pas d'avocat qu'on a essayé de mettre à leur disposition. Ils sont livrés à eux-mêmes, et c'est plutôt les associations de la diaspora qui essaient de les aider. Et c'est l'opinion américaine qui s'insurge contre le traitement qui leur est fait.
Et pendant ce temps, France, à Port-au-Prince, la classe politique s'adonne à son jeu préféré, courir après le pouvoir. C'est ce que vous écrivez aujourd'hui dans le Nouvelliste. Le Premier ministre, Ariel Henry, vient en effet de faire publier sa proposition de transition. Est-ce que cela veut dire, France, que cela vaut pour feuille de route ?
Alors, pour le moment, on ne sait pas. Son accord a été signé par certains partis politiques, par certains groupes de la société, et lui, il l'a publié dans le Moniteur, le journal officiel. Cette publication a provoqué des remous au sein du gouvernement. Le secrétaire général du Palais national, par qui aurait dû passer le papier pour aller au journal le Moniteur, dénonce le fait qu'il n'a pas reçu ce papier, que le papier a été diffusé directement par le directeur général du Moniteur. Il y a une petite crise à ce niveau. Monsieur Henry va essayer d'avancer tout seul. Jusqu'à vendredi dernier, il rencontrait encore les signataires des autres accords. Il faut dire que les jours passent, les camps restent sur leur position. Henry a déplacé un point important. On va voir la réaction des autres.
Et justement, les autres, France, la société civile, est-ce que ça veut dire que les propositions qu'elle mettait sur la table, eh bien, sont caduques maintenant?
Les propositions ne sont pas caduques. Comme je le disais, jusqu'au week-end dernier, Henri rencontrait encore les groupes de la société civile, il rencontrait les signataires des autres accords, car il existe au moins deux autres accords qui sont encore vivants. Pour le moment, on va voir ce que cela va donner. Monsieur Henri va essayer de former un gouvernement. C'est la prochaine étape importante. Il y a un rendez-vous pour ce vendredi où les signataires de l'accord de Ariel Henry vont essayer de monter un gouvernement, un nouveau conseil électoral et une constituante pour écrire la nouvelle constitution quand la commission qui travaille jusqu'à présent va être mise de côté.
Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste avec nous. À Port-au-Prince, on referme ainsi cette longue page haïtienne. Il est 9h20 dans la capitale haïtienne.
RFI, la radio del mundo.
Une heure de plus à Santiago, le Chili, où la campagne pour le premier tour de la présidentielle du 21 novembre a officiellement commencé hier. Et pour lancer cette course, un premier débat entre les candidats était organisé à la télévision. Notre correspondante Justine Fontaine l'a suivi pour nous.
En plateau, presque tous les candidats sont présents. Une démocrate chrétienne, un nostalgique de la dictature de Pinochet, un marxiste-léniniste et puis les deux favoris du scrutin. D'une part, un ancien leader étudiant de gauche et d'autre part, Sébastien Sichel, soutenu par la coalition de droite au pouvoir. Il dit vouloir dépasser les clivages politiques.
D'abord, je voudrais que le président construise une grande coalition pour parvenir à des accords transversaux, qu'il ne clame pas que Salvador Allende est l'avenir et qu'il ne débatte pas non plus au sujet de Pinochet ou du gouvernement précédent, pour que l'on cesse d'être polarisé, d'être paralysé.
Face à lui, l'ancien leader étudiant Gabriel Boric reprend des revendications des Chiliens qui ont manifesté contre les inégalités dans le pays. Fin du système de retraite privé, création d'un système de santé unique universel ou encore soutien à l'Assemblée constituante qui vient de commencer ses travaux.
Ce qui rendrait le Chili ingouvernable, ce serait de ne rien changer. Et je représente aujourd'hui le changement, la transformation du pays et l'espoir que nous puissions construire un nouveau Chili.
Plusieurs sujets n'ont toutefois pas été abordés, comme l'éducation, l'environnement, la politique internationale ou encore les droits des personnes LGBT+. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
Avant de retrouver nos confrères de la première, je vous propose de faire une pause avec toute cette actualité et de découvrir le travail du photographe d'origine italienne Gabriele Galimberti. Après avoir lu qu'il y avait plus d'armes à feu, écoutez bien, détenues par des particuliers aux États-Unis que d'habitants en tant que tels dans le pays, eh bien, il a voulu aller à la rencontre de ces passionnés des armes. Ces photos pour National Geographic ont été exposées au Festival international du photojournalisme Visa pour l'image à Perpignan en France, qui s'est tenu au début du mois. Cléa Broders, à cette occasion, l'a rencontré.
Il y a 3 ans, j'étais aux États-Unis en train de travailler sur un tout autre sujet. Et un jour, je suis rentré dans un magasin d'armes à feu, par curiosité. J'ai commencé à discuter avec des clients, puis à un moment donné, l'un d'eux m'a dit « j'achète un nouveau revolver ». Je lui ai demandé si c'était le premier qu'il achetait. Il m'a répondu « non, j'en ai 60 ou 70 à peu près ». Il ne savait même pas vraiment combien il en avait. Donc, naturellement, je lui ai demandé si je pouvais venir le prendre en photo avec ses armes à feu. Il m'a dit « bien sûr, pas de problème ». Et une heure plus tard, j'étais chez lui, en train de faire son portrait, entouré de son arsenal. Pour les gens qui ne peuvent pas voir les photos, mes photos sont des portraits où l'on peut voir un Américain ou une famille américaine entouré de toutes les armes à feu qu'ils possèdent chez eux. Ce ne sont que des photos de citoyens avec leurs armes personnelles, ce ne sont pas des militaires et ils en ont tous beaucoup. L'idée, c'était d'aller à la rencontre de ces gens pour savoir qui ils sont.
En tout cas, il y a une chose qu'ils ont en commun. Ils ont tous, sur vos photos, l'air très très fiers d'eux et de se montrer avec leurs possessions.
Oh oui, ils sont très fiers. D'ailleurs, la plupart des gens que j'ai trouvés, c'est après les avoir contactés sur Instagram, ce qui est un bon point de départ. S'ils postent des photos de leurs armes sur Instagram, cela veut dire qu'ils aiment les montrer. On trouve une grande variété de gens. Il y a des familles, des célibataires, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des noirs, des blancs, riches, pauvres. L'amour des armes se trouve partout aux États-Unis. Ce n'est pas simplement une catégorie de gens.
White, rich, poor. Love for guns is really everywhere in the US. It's not just one category of people. And also.
Et d'ailleurs, même au niveau politique, c'est vrai que la majorité des gens que j'ai photographiés sont des républicains, mais pas que. Car certaines personnes que j'ai rencontrées ont voté pour Barack Obama. Donc c'est un sujet de controverse et ça touche vraiment tout le monde.
Quand vous vous êtes lancé dans le projet, est-ce que vous vous attendiez à trouver autant d'armes que ça chez les gens ?
Non, pas vraiment. Car quand j'ai commencé le projet, la première personne que j'ai photographiée, ça faisait déjà beaucoup d'armes, comme je vous le disais. Puis, j'en ai rencontré 2-3 autres dans les jours suivants, et il y en avait certes beaucoup, mais moins que le premier, environ 20-25. Donc je me suis dit que ça devait être plutôt ça, la moyenne. Mais en continuant, j'ai eu pas mal de surprises. La famille au Texas, si l'on compte les armes qu'il y a sur la photo, il y en a presque 200, et ils en avaient d'autres. Ils ne cessaient d'en amener dehors. Et au bout d'un moment, j'ai dit... Ok, il n'y a plus de place pour d'autres armes sur cette photo. Donc la légende dit que ça représente à peu près 80% de leur collection. De même pour cet homme qui se tient au milieu d'une carte géante de son pays, on a recréé la forme des États-Unis avec sa collection d'armes. On en a utilisé 119. Donc de nombreuses surprises et au final, je pense que le travail est plus puissant que ce à quoi je m'attendais.
Than what I was expecting at the beginning.
Le photographe Gabriel Galimberti avec Cléa Broderst sur RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec vous, Serge Massot, bonjour.
Bonjour.
En pleine quatrième vague de Covid, la Guyane s'apprête à faire le tri parmi ses patients.
Oui, 55 morts durant ces 40 derniers jours, la vaccination qui patine et les hôpitaux qui saturent. À Saint-Laurent-du-Maroni, le CHOG, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, a activé sa commission éthique, une commission qui permet de déterminer vers quels patients prioriser les soins. Crépin Keza est directeur médical au CHOG.
En fait, aujourd'hui, nous avons plus de patients que les ressources, tant en matériel qu'en personnel. Et il faut faire un choix. Et ce choix est très difficile à vivre quand on est seul à prendre cette décision. Donc, on a entouré ça de juristes aussi. Et donc, cette commission a été activée il y a 10 jours parce qu'il y avait 10 patients qui attendaient. Et il n'y avait que 2 lits de réanimation. Donc, il faut faire des choix.
C'est-à-dire, concrètement, il faut savoir qui va vivre, qui va mourir.
Exactement, c'est cela. C'est très difficile. C'est quelque chose que nous avons craint en début de crise. On a écouté parler de ça à Strasbourg, à Mulhouse. On s'est inspiré aussi de ce qui s'est passé en Israël et tout. Et donc, nous, on a mis ça en place et on a rajouter des éléments nouveaux, qui sont des éléments qui n'existent pas ailleurs, parce que notre population, nous avons une population très jeune, donc on était obligé de mettre cette place, en place cette commission.
En Guadeloupe et en Martinique, la situation sanitaire s'améliore, les écoles vont rouvrir lundi prochain, les organisations syndicales critiquent ce retour en classe, alors comment cela va-t-il se passer ? Réponse avec Colette Borda.
Un dispositif quelque peu contesté par certains syndicats de l'éducation nationale. Quoi qu'il en soit, l'académie va pouvoir accueillir les scolaires dans les établissements, mais selon un schéma adapté à chaque niveau. Ainsi, pour les élèves de primaire, de 6e et de 5e, les cours seront dispensés en présentiel. Pour les 4e, les 3e et les lycéens, ils suivront un format dit hybride, mi-distanciel, mi-présentiel, avec une jauge sur place fixée à 50%, et qu'il s'agisse des écoles, des collèges et des lycées dès le premier cas de Covid. Dans une classe, cette dernière sera fermée et placée en isolement pendant une semaine. L'enseignement sera tout de même assuré à distance. En ce qui concerne les mesures plus générales, le port du masque restera de rigueur en intérieur comme en extérieur pour les élèves et pour le personnel. De même que la limitation du brassage par niveau et par classe durant la restauration dans le premier degré. La pratique d'activités sportives s'effectuera uniquement en extérieur et dans le respect d'une distanciation de 2 mètres. Pour ce qui est de l'hygiène, la désinfection des tables et les surfaces devra être réalisées plusieurs fois par jour.
Et puis notez pour finir que la préfecture de Guadeloupe lance une alerte de vigilance à propos de l'onde tropicale 45. Elle est située dans l'océan Atlantique et se dirige vers l'arc antillais. Elle pourrait se changer en tempête tropicale d'ici à la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Bonne journée.
Merci beaucoup Serge Massot. Bonne journée à vous aussi, aux équipes de La Première qui refermait ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, rendez-vous sur RFI Pure Radio pour nous réécouter.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. Vous êtes